J'ai essayé déjà de faire ça. Ok, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Mon épouse Barbara et moi apprécions vraiment notre séjour ici à Montréal. Et ça nous fait plaisir, ça nous a fait plaisir de partager tout simplement avec les gens cette fin de semaine. Nous croyons que ce que nous avons discuté, ce que nous voyons ce matin à travers l'adoration, a des implications pratiques, très concrètes dans notre vécu de tous les jours. Lorsque nous sommes en train de célébrer ici la mort d'un homme, voilà 2000 ans, nous célébrons aussi le fait qu'il est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui et que ce qu'il a accompli pour nous a un impact sur notre vie actuellement. La bonne nouvelle du message chrétien, l'Évangile, a un effet sur votre manière de vivre votre vie, de penser, votre manière de faire face aux difficultés qui se présentent à vous, votre manière d'interagir avec les gens autour de vous. Alors, ça nous fait plaisir d'être ici. Nous sommes encouragés de voir le travail de Sam Beck et des 80 églises et plus au Québec. Ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous. Vraiment, on remercie le Seigneur de pouvoir participer un peu à cette œuvre et de pouvoir vous servir cette fin de semaine. Mon épouse et moi avons aussi eu l'opportunité d'aller visiter un peu le vieux Montréal sur la rue Saint-Paul. Très joli. Très belle ville. Et nous avons passé une belle soirée ensemble hier soir. Alors, j'aimerais vous démontrer ou vous montrer comment. À quel point la bonne nouvelle de l'Évangile est pratique et a des implications dans vos relations les uns avec les autres. Vous passez 95 à 99% de votre vie à être en relation avec des gens. Et si c'est le cas, alors nous devons nous attendre à ce que ce livre adresse ce sujet, cet aspect de nos vies. Et je pense que la Bible le fait un peu partout dans les Écritures. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention spécifiquement sur Éphésiens 4 ce matin. Je vais lire le passage et j'aimerais souligner trois points ce matin. Éphésiens 4, je vais porter mon attention surtout sur les versets 1 à 6. Mais je soulignerai aussi quelques éléments dans les versets 7 à 16. Mais écoutons premièrement les versets 1 à 6. Voici la parole de Dieu. Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, simplement pour placer ce verset dans son contexte, Paul est en train de passer à un autre sujet. Il adressait des questions peut-être plus théoriques dans les chapitres 1 à 3. Il définit la grandeur de la grâce qui nous est offerte en Jésus-Christ, ce cadeau gratuit du pardon et du fait que nous sommes purifiés, cette puissance. Et il a expliqué tout cela dans les versets 1 à 3. Et lorsqu'on arrive au chapitre 4, il est en train d'atterrir dans la vie quotidienne. Et il vient faire atterrir sa théorie dans nos relations les uns avec les autres. Ainsi, il dit, votre théologie, ce que vous croyez, comment vous concevez Dieu et ce que vous expérimentez dans votre relation avec Dieu en termes de pardon, de purification et de puissance, doit commencer à se manifester dans votre manière dont vous vous traitez les uns les autres. Alors, si vous voulez vous rappeler, Jésus avait un peu la même approche lorsqu'il parlait de notre manière dont nous devons vivre devant Dieu. Jésus a dit qu'il y avait deux commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Paul fait ici. 1 à 3, Éphésiens 1 à 3 nous parle de notre relation avec Dieu et comment nous avons été secourus par Dieu et a rétabli une relation, une communion, un amour avec lui. Parlons à présent, à partir du chapitre 4, comment ceci va venir s'exprimer dans votre relation avec votre prochain, qu'il s'agisse de votre épouse ou votre époux, vos enfants, qui que ce soit dans votre famille étendue, un collègue de travail, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, quelqu'un qui ne vous aime pas, quelqu'un qui vous aime peut-être, quelle que soit la situation, votre manière de concevoir vos relations avec les autres devrait être affectée par cette théologie. Alors voici ce qu'il dit ici. « Je veux que vous viviez une vie qui est digne des chapitres 1 à 3. En toute humilité et douceur, soyez patients, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il parle du corps de Christ, les frères et sœurs en Christ, il y a un esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Et puis, au verset 7 jusqu'au verset 16, il commence à parler de notre diversité aussi. Nous avons des forces différentes parmi les êtres humains. Ainsi, il y a cette unité, mais il y a aussi cette diversité parmi nous, parmi les hommes, et même parmi les croyants. C'est un peu comme la Trinité, n'est-ce pas? Un Dieu, trois personnes. C'est un mystère, mais nous, comme peuple de Dieu, ressemblons, représentons cette diversité dans la personne de Dieu lorsque nous vivons une communion ensemble dans le corps de Christ. Et lorsque nous le faisons adéquatement, nous sommes en train d'exprimer la réalité du Dieu en qui nous croyons. Et les autres qui nous regardent et qui sont attirés à cet amour qu'il y a au milieu de nous sont attirés à la vérité de la bonne nouvelle qui nous a transformés. Alors, quelques versets encore. Mais voici trois éléments sur lesquels je vais mettre une application. Je veux que vous soyez capable de me suivre. C'est important pour moi de savoir que je vous aide. Premièrement, pourquoi nos relations les uns avec les autres sont si importantes? Pourquoi vos relations sont-elles si importantes, spécialement vos relations avec des frères et sœurs en Christ, mais aussi tout le monde? Pourquoi sont-elles si importantes? Deuxièmement, je veux voir avec vous quelles sortes de qualités dans nos attitudes, dans notre caractère qui sont essentielles si vos relations vont refléter ce que Dieu veut. Et troisièmement, comment commençons-nous à développer ces qualités de caractère en nous? Alors, premièrement, pourquoi nos relations sont si importantes? Si vous aviez à vous adresser à un passant sur la rue à Montréal et vous leur demandez « Pourquoi est-ce que tu t'engages dans des relations avec les gens? » Probablement que vous auriez toutes sortes de réponses différentes. Mais une réponse que vous auriez assez souvent serait celle-ci. Je m'engage dans des relations avec les gens parce qu'en le faisant et lorsque la relation est bonne, cela m'apporte du bonheur, je me sens bien dans ma peau. D'autres personnes vous diront aussi, parce qu'ils ont été blessés dans des relations, ils ne veulent plus vivre des relations. Ils ont été blessés dans des relations. Mais en général, la relation que vous recevrez, si vous posez cette question à un passant, pourquoi vous engagez-vous dans des relations, ce serait un peu plus orienté vers soi. C'est moi. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas quelque chose d'important d'apprécier les relations, au contraire. Mais je vous dirais tout de même que c'est secondaire. Dans ce passage, nous trouvons une autre motivation, un autre motif pour nous engager dans des relations entre les frères et sœurs et avec les gens. Alors, si vous avez votre Bible, alors regardez quelques versets que nous n'avons pas lus et que je désire souligner, où Paul utilise des mots intéressants qui nous aident à voir pourquoi nous devrions poursuivre des relations avec exprimant l'unité. Verset 12, donc Éphésiens 4, 12. « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. » Édification. être bâti, construit, édifié. Une autre place, il parle de maturité, de devenir mature. Verset 15, il dit, « Afin que vous croissiez, nous croîtrons. » Alors, c'est très simple, très pratique. Voici pourquoi Dieu veut que vous vous engagiez dans des relations avec d'autres personnes. Non pas premièrement pour votre bonheur, mais afin que vous grandissiez, que vous maturiez, que vous deveniez de plus en plus comme Jésus. Laissez-moi l'illustrer. Lorsque mon épouse et moi, nous fréquentions avant le mariage, nous nous aimions tous les deux naturellement. Et je me rappelle, lorsque nous avons décidé de nous marier, nous avons préparé notre mariage et le jour du mariage lui-même, alors que j'attends ma future entrée. Et tous les deux, nous étions chrétiens à cette époque. Mais je me souviens très bien, alors ça fait 20 ans que nous sommes mariés, 4 enfants, 2 chats, 1 chien. Lorsque je retourne en arrière dans mes pensées, 20 ans plus tôt, je réalise qu'à cette époque, voici ce que je me disais, alors que je la regardais monter, voici ce que je me disais. Je m'aime moi-même et elle s'en vient pour m'aimer. D'accord? C'est vraiment une situation gagnante-gagnante. Je gagne deux fois. Et Barbara est ici et probablement qu'elle vous dirait que... Alors que nous étions dans la vingtaine, j'étais dans la mi-vingtaine, tous les deux pensions probablement de cette manière. Alors nous nous marions, nous disons nos vœux devant Dieu, 500 personnes comme témoins, nous allons nous aimer l'un l'autre exclusivement jusqu'à la fin de nos jours. Et nous quittons l'église et nous allons à l'hôtel et on commence à avoir des discussions. Oups, et on s'en va sur notre voyage de noces. Et parfois, nous ne sommes pas d'accord sur la place où nous allons manger, quel restaurant. Alors, 6 minutes ou 6 heures après s'être mariés, on commence déjà à expérimenter des luttes, des conflits. Pourtant, avant de me marier, j'étais certain que je pouvais aimer n'importe qui. Non, mais regardez comment je suis aimable. Et voilà, je me marie et j'ai de la difficulté à aimer la seule personne. Quelques heures plus tôt, j'ai promis devant Dieu et devant des centaines de personnes de l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Alors, que se passe-t-il dans ce mariage? Eh bien, Dieu avait des plans pour nous. Essentiellement, bien sûr, Dieu voulait que nous apprécions notre relation l'un avec l'autre, mais son objectif premier n'était pas cela. Son premier objectif, c'était que dans le contexte de ce mariage, nous commencerions à grandir et à être édifié. Et si vous devez grandir, vous allez devoir réaliser premièrement que vous avez des comportements enfantins. Alors, première semaine, premier mois, première année, alors qu'elle luttait pour m'aimer, qu'a-t-il commencé à se manifester dans cette relation intime? Bien, j'ai commencé à voir combien mon amour n'était pas profond et solide pour les gens. C'était vraiment le bon endroit pour moi, où me trouver pour que Dieu me montre doucement, même si c'était parfois douloureux, pour me montrer mon manque de maturité dans mon amour, combien mon amour était enfantin, immature, lorsqu'il était question d'aimer véritablement quelqu'un d'autre. Je ne savais pas ce que signifiait vraiment l'amour et marcher avec quelqu'un et l'aimer à travers les années. Et on ne parle pas de difficultés majeures dans notre couple. On parle simplement du quotidien à tous les jours et puis prendre les petites décisions quotidiennes. Et voilà, déjà, j'ai de la difficulté à aimer mon épouse. Alors, lorsque je regarde en arrière et puis des enfants se sont ajoutés et puis ils sont venus transformer la dynamique de notre relation et puis nous montrer les difficultés parfois que nous avons à aimer. Mais c'est dans ce contexte que Dieu a travaillé pour faire une œuvre de grâce dans ma vie, dans la vie de mon épouse. Et j'oserais dire maintenant, nous ne sommes plus les mêmes personnes que celles qui se sont mariées voilà 20 ans. Quand nous nous sommes mariés voilà 20 ans, mon épouse a grandi dans une belle famille et vous pouviez toujours savoir quelle sorte de famille d'où vous veniez en disant comment ça se passe autour de la table. Alors, mon épouse venait d'une famille où, lorsqu'on s'assoyait à table, on avait du plaisir à être ensemble autour de la table et avoir une belle conversation. Il n'y avait pas de conflit autour de la table. Il n'y avait pas de questions controversées. Moi, je venais d'une famille, à l'opposé où mon père était un militaire et ma mère enseignait l'anglais au secondaire. Et à table, la télé était allumée, les nouvelles de 7 heures étaient là et nous parlions de politique et de religion. Alors imaginez, Barbara et moi nous marions et nous nous assoyons pour souper. Que pensez-vous qui s'est passé? Alors, voici, à travers les 20 dernières années, ce qui s'est passé. Je pense que Barbara le dirait. Je pense qu'elle pourrait en témoigner même ce matin. Je crois qu'elle dirait qu'elle est devenue une personne plus courageuse et elle va davantage avancer avec grâce pour aller me confronter, pour me faire face si elle a besoin de m'apporter quelque chose. Elle va le faire toujours gracieusement, mais elle va oser me confronter davantage. Et je pense que mon épouse serait d'accord pour dire que, dans une certaine mesure, j'ai appris à être plus doux, même meilleur pour écouter les gens. En 20 ans, nous avons changé et tous les deux, nous serions d'accord. Voyez-vous, c'est ce que Dieu avait comme projet. Alors, voici ce que Dieu veut faire d'abord et avant tout. Il veut nous amener à l'image de la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est l'objectif premier de Dieu. Et parce que ça, c'est l'objectif de Dieu, ceci apporte de la joie et du bonheur dans nos relations. Alors, on met les choses en ordre. Premièrement, selon C.S. Lewis, on met les choses en priorité et les choses secondaires ne seront pas négligées. Au contraire, elles vont trouver leur bonne place. Alors que j'apprends à aimer Dieu et que je comprends comment il est en train de me transformer à l'image de Christ, alors je comprends que c'est ça la priorité de Dieu même dans ma relation avec mon épouse, mes enfants, les autres personnes. Bien, généralement, ceci apporte beaucoup de joie et de belles relations, bien souvent. Alors, Dieu veut nous faire grandir. Voilà pourquoi vous devez poursuivre des relations. C'est pour grandir. Comment Dieu voulait-il utiliser cette relation dans ma vie pour m'aider à grandir à l'image de Christ? Et comment Dieu utilise-t-il cette personne pour se servir de moi et les aider, eux, à grandir dans la grâce? Eh bien, c'est pour devenir à l'image de Christ. Alors, premièrement, pourquoi les relations sont-elles si importantes? C'est parce que votre croissance dans la grâce est en jeu. Deuxièmement, quelles sont les qualités de caractère, de personnalité qui vont vous aider à grandir dans ces relations? Paul en mentionne 4 ici. Alors, je vous dirais, si vous ne poursuivez pas ces 4 qualités et que vous continuez à avancer dans les autres chapitres d'Éphésiens, 5, 6, et vous commencez à regarder les applications dans le mariage, les relations parents-enfants, relations des enfants avec les parents. Si vous manquez le chapitre 4, versets 1 à 3, vous ferez beaucoup de dégâts dans vos relations et dans votre mariage. Alors, ces qualités d'attitude sont essentielles si vous voulez grandir dans la grâce et que les gens autour de vous grandissent aussi dans la grâce et que les relations deviennent de plus en plus agréables. Alors, première qualité, l'humilité. Soyez complètement humble. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici ma définition de l'humilité. L'humilité, c'est lorsque je porte attention premièrement à mes faiblesses, mes fautes, mes péchés, avant de porter attention sur vos faiblesses, vos péchés, vos fautes. Voilà une personne humble. Et cela ne vient pas naturellement, nécessairement. Si vous êtes comme moi, je peux voir dans vos vies, vos fautes, vos péchés, avec un discernement extraordinaire, mais j'ai de la difficulté à voir les miens. La grâce de l'Évangile nous aide à grandir dans l'humilité afin que nous soyons plus préoccupés par nos luttes, nos combats, nos péchés et de voir ce que cela apporte comme difficulté dans les relations avant de voir les faiblesses dans la vie de l'autre. Maintenant, il y a un moment où je vais me tourner vers la vie de l'autre, mais ceci doit être fait avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Alors, une autre illustration dans mon mariage, et j'ai grandi dans ce domaine. Alors, au début du mariage, je pouvais dire à mon épouse quelque chose comme ceci. Tu sais, on a des difficultés dans notre mariage et je pense que ça pourrait être une bonne chose si on s'assoyait ensemble et si je t'aidais à voir les faiblesses dans ta vie, tes péchés, et ça améliorerait vraiment notre mariage. Que pensez-vous qu'il se passait? Qu'est-ce que ceci apportait dans notre relation? Ceci nous menait nulle part. Ne nous menait nulle part. Même si mon épouse était disposée vraiment à bien faire, ceci n'était pas une bonne approche. un mur se bâtissait entre nous. Mais si je m'approchais de Barbara et je lui disais, tu sais, la communication ne va pas très bien depuis quelques semaines ou depuis une semaine, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous deux, j'ai besoin de m'asseoir avec toi et je dois te partager des luttes que j'ai à l'intérieur. Je veux simplement te partager des difficultés que j'ai dans mes relations, certaines de mes fautes. Je veux reconnaître certains des péchés qui ont nui à notre communication cette semaine. Alors, tout d'un coup, évidemment, nous avions une belle conversation. Mon épouse était prête à vraiment nous préparer un gros café et discuter toute la soirée ensemble pour parler de ce sujet. J'attendais, chérie, justement, qu'on puisse parler de ces choses. Alors, ce qui était encourageant, c'est que lorsque je donnais cette direction, eh bien, mon épouse aussi avait envie de faire ça. Lorsqu'on a cette approche, les gens ont envie aussi de reconnaître leur faute, n'est-ce pas? L'humilité. Si vous devez avoir des relations fortes et belles, cette caractéristique de l'humilité doit grandir dans votre vie. Deuxième qualité, la douceur. Qu'est-ce que ça veut dire être doux? Voici ma définition de la douceur. Une personne douce, c'est une personne qui a ses forces et ses qualités contenues par l'Évangile, en sorte à ce que lorsqu'elle se sert de ses forces, de ses qualités, elle peut bâtir les gens plutôt que les écraser. Est-ce que ceci a du sens pour vous? Une personne douce peut être une personne très forte, mais une personne qui, par la grâce de Dieu, a appris à utiliser ses forces, ses talents et ses dons. Par exemple, les parents dans vos relations avec vos enfants, avec l'autorité que vous avez, utilisez cette autorité d'une manière qui les bâtit plutôt que les manipuler ou les détruire afin de les amener simplement à faire ce que vous voulez. Voici ce qu'est une personne douce. La marque d'une personne douce, c'est une personne qui encourage les gens. C'est très simple ce que je vous partage ce matin. La vie chrétienne est très simple. Ce n'est pas très compliqué. Mais elle demande beaucoup de travail de Dieu en nous pour nous aider à être humbles et doux. Une personne douce est une personne qui encourage les autres. Quand est-ce la dernière fois que quelqu'un vous a encouragé? Je sais que les gens peuvent le faire pour manipuler. Simplement, c'est de la flatterie. Ce n'est pas approprié. Quand est-ce la dernière fois que quelqu'un vous a encouragé vraiment? Avez-vous l'impression qu'il voulait vous écraser ou avez-vous été encouragé, élevé, édifié? Vous voyez comme l'encouragement, un mot d'encouragement peut être puissant pour édifier quelqu'un. J'ai une fille de 18 ans. Elle a eu bien sûr 13 ans. Oui, j'ai compris. À travers les années, lorsqu'elle avait 13 ans, elle passait du temps devant l'ordinateur et aux États-Unis, il y avait des messages instantanés qui étaient très populaires. Aujourd'hui, c'est des messages par texte et maintenant, ça de Facebook ou de Twitter. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment des messages très rapides, MSN. Alors, elle envoyait des messages comme ça sur l'ordinateur familial à ses enfants. Elle pouvait passer une demi-heure ou une heure et je pouvais crier, moi, de la salle familiale plutôt que de me lever pour me rendre jusqu'à elle. Et je pouvais crier, « OK, Anne, c'est le temps de laisser l'ordinateur. Ça fait une heure que tu es là. Ferme l'ordinateur. Va faire tes devoirs. » Oui. 5 minutes plus tard, j'entendais encore le clavier qui était en train de travailler. 5 minutes après, je criais. 5 minutes après, encore, elle n'avait pas quitté cela. Et à un certain moment donné, bien sûr, il y a une raison. Il est approprié pour moi de m'inquiéter du temps qu'elle passe là, mais ce n'était peut-être pas la bonne manière d'adresser cela avec elle. Alors, parfois, je m'approchais d'elle et lorsqu'elle sentait que je m'approchais, je voyais qu'elle devenait tendue parce qu'elle savait que je m'en venais la chicaner sur cette question. Mais un moment en particulier, je me suis approché d'elle. Ma fille était là à l'ordinateur et je pouvais très bien voir qu'elle commençait à être tendue. Et je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas fait allusion à l'ordinateur. Je ne me souviens même pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit quelque chose d'encourageant. Tu sais, j'ai été encouragé par telle chose dans ta vie. Et elle est presque tombée de sa chaise. Elle a été vraiment surprise. Et je me suis assis, puis j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, c'est ma fille. Ma chair, mon sang, je l'aime. Et elle est surprise de ce que son père l'encourage. C'est vraiment un problème. C'est un vrai problème. Ma fille devrait, au contraire, se dire, lorsque je l'approche, elle devrait se dire, « Ah, c'est mon père encore. » Il est toujours en train de m'encourager. Je suis plus capable d'entendre ses encouragements, vraiment. Je suis fatigué de l'entendre dire tellement de belles choses sur moi. Voici ce qu'elle devrait avoir. Elle ne devrait pas être surprise lorsque son père l'encourage. Elle devrait s'attendre à des encouragements. Elle devrait être même fatiguée pratiquement que je l'encourage. Alors, nous devons apprendre à encourager comme époux, comme épouse, comme parents, comme frères et sœurs en Christ. Je dois grandir. Je dois grandir dans cette manière d'encourager les gens dans mes paroles. Vous savez, naturellement, je ne le fais pas. J'aime bien que vous m'encouragiez, mais naturellement, je ne suis pas porté vers les autres et à les encourager. Quelques autres qualités, et je vais accélérer un petit peu ici. Regardez les deux autres qualités ici. Non seulement devez-vous être humble et doux, mais vous devez être patient et vous supportant dans l'amour. Il y a une petite nuance entre la patience et se supporter les uns les autres avec amour. Rapidement, vous savez ce que c'est qu'être patient et supportant avec amour? Cela veut dire que vous êtes humble et doux pour une période très, 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 très longue. Très beaucoup. C'est cela. Avez-vous déjà été humble et doux? Et peut-être que c'est la première fois que vous avez été humble et doux dans votre relation avec eux, alors ils ne l'apprécient pas et puis vous fâchez. Ce n'est pas de la patience et ce n'est pas vous supporter les uns les autres avec amour. Je parle avec des époux, des couples, et vous voyez qu'il y a un des deux dans le couple qui est agité, qui est irrité. Et l'autre se comporte comme s'il avait été vraiment écrasé dans son mariage, et on parle d'humilité, de douceur, et puis ils s'en vont, et la semaine d'après, ils reviennent, et celui qui est généralement en colère, il dit, « J'ai été cette semaine pendant 2 jours humble et doux, je ne l'ai pas fait pendant 20 ans, je l'ai fait pendant 2 jours, je l'ai fait, et mon épouse ne l'a pas apprécié. Alors, j'abandonne. » Mais que diriez-vous si on étirait cette douceur et cette humilité pour 3 jours, 4 jours? Et peut-être lorsque vous manquez votre coup, vous retournez vers votre conjoint plus rapidement pour demander pardon. Et lorsque vous demandez pardon, vous ne venez pas simplement dire des mots, mais vous les croyez et vous changez. Et vous devenez de plus en plus doux et humble. Et il commence à le voir. C'est tangible, c'est concret. C'est cela, être patient et supportant les uns les autres avec amour. Dans toutes les familles qu'il y a dans cette pièce ce matin, si votre famille ressemble à la mienne, et quelques mariages qu'il y a ici, si votre mariage est comme le mien, quelques relations que vous êtes engagées, si vos relations ressemblent à mes relations, vous avez besoin de grandir dans l'humilité, la douceur, la patience et apprendre à vous supporter les uns les autres avec amour. Aucun d'entre vous n'a pas besoin de grandir dans ces domaines. Voici des qualités d'individus très simples, mais qui vont nous permettre d'entrer en relation les uns avec les autres, où nous allons aider les autres à grandir en Jésus-Christ, et ils sont en train de nous aider à grandir et à maturité en Jésus-Christ. C'est très simple. Ce n'est pas plus compliqué que cela, mais cela ne se produira seulement si, et c'est mon troisième point, comment une personne comme moi et comme vous peut-elle grandir en humilité, en patience, en douceur? Je regarde ces 4 qualités et lorsque je lis ce passage, je me sens dépassé. Pourquoi? Je regarde ce passage et je dis non, c'est vraiment pas moi, ça ne me représente pas. Oui, j'ai changé, c'est vrai, mais il y a encore tellement de chemin à faire. Et si vous ne lisez pas les versets 1 à 3, en voyant ces qualités, si vous ne sentez pas un fardeau, si vous ne vous sentez pas dépassé, peut-être que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Peut-être que vous pensez que vous êtes la personne la plus humble de la planète. Mais je peux vous dire qu'il y a peut-être un problème d'orgueil derrière cela, derrière cette humilité. Mais je lis ce passage et je me dis, comment est-ce que je vais y arriver pour grandir ainsi dans tous ces domaines? Naturellement, je n'ai pas envie d'être humble, d'être doux. Ce n'est pas vers cela que je suis porté naturellement. J'ai besoin d'aide pour y arriver. Alors, d'où vient l'aide? Et je pense qu'on le voit dans quelques passages ici. Premièrement, lorsque vous voyez ces qualités, vous ne devriez pas premièrement penser à vous-même. Ce n'est pas là que vous allez chercher cela en premier. Vers qui ces qualités vous pointent, vous dirigent-ils premièrement? Qui représente-t-elle? C'est vraiment l'image de Christ, de Jésus. Pensez-y. Jésus s'est humilié. C'est vrai? Et le passage nous dit qu'il n'est pas venu pour nous accuser, il est venu pour nous sauver. Il s'est humilié afin de venir chercher ceux qui étaient perdus, des orgueilleux comme vous et moi. Jésus était doux. Il était tellement fort et puissant, et il a utilisé toute cette puissance. Dans quel but? Pour nous dominer? Pour nous écraser sous son autorité? Pas du tout. La deuxième personne de la Trinité a utilisé toute sa puissance pour se tenir à la croix, s'accrocher à la croix, afin que des personnes comme vous et moi qui ne sont pas doux, qui n'encourageons pas, qui sommes durs et critiqueux, afin que nous soyons pardonnés. Il a été humble et il a été doux. Et pensez-y, la semaine dernière, alors pensez juste à cette semaine, combien de fois sera-t-il patient avec vous? Et vous supportera-t-il avec amour cette semaine, dans la semaine qui vient? Il ne vous quittera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il est dans cette bataille avec vous jusqu'à la fin, si vous lui appartenez, par la foi. C'est quoi la foi? J'ai besoin d'un sauveur. Je suis un pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. Si c'est le cri de votre cœur, alors Dieu va commencer à travailler en vous. Vraiment, ces qualités qu'il nous demande à avoir, il va commencer à les former en nous. Alors que nous voulons réfléchir sur ce que lui a fait pour nous, nous nous tournons premièrement vers lui pour apprendre. Deuxième, et je vais m'arrêter ici ce matin, soyez encouragés, s'il vous plaît, par ce que je vous apporte ce matin. Dans les versets 5 et 6, 4, 5 et 6, il y a une référence à la Trinité, un Dieu et Père, un Seigneur et un Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a une référence ici à la Trinité. Et je veux que vous réfléchissiez à cela. La relation pour laquelle nous sommes des êtres relationnels, eh bien, c'est parce que nous avons un Dieu qui est sociable lui-même. C'est le mystère du christianisme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient dans une parfaite relation les uns avec les autres avant même que quoi que ce soit créé. Avant l'histoire de l'humanité, ils étaient dans une parfaite communion, un amour parfait ensemble. La doctrine de la Trinité a des conséquences très pratiques. Cela nous aide à comprendre pourquoi nous sommes sociables. C'est parce que nous avons été créés à son image. Dieu est un être sociable. Père, Fils et Saint-Esprit, ils étaient en communion, adorant l'un l'autre, s'aimant l'un l'autre, dans cette relation intense et parfaite et fantastique dans l'éternité. Et ils nous ont créés à leur image. Maintenant, le péché est venu fausser cette image que nous sommes censés refléter et nous sommes sauvés pour grandir et redevenir à cette image. Lorsque Jésus est accroché à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, il parle au Père et à l'Esprit. Pourquoi cette relation parfaite entre nous est-elle détruite? Vous voyez, c'est tellement puissant, tellement sérieux. Alors que Jésus est sur cette croix, c'est pas juste un enfant, un être humain qui est en train de mourir. Oui, il est humain, mais c'est la deuxième personne de la Trinité. Jésus est là sur cette croix et il dit, cette relation éternelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est brisée, détruite, parce que Jésus devient volontairement et parce que le Père était d'accord et l'Esprit était d'accord, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient d'accord que ceci devait se produire. Ils travaillent ensemble pour arriver là. Et Jésus est en train de dire, je porte le poids des péchés des gens qui ont enfreint la loi et qui ils méritent cette conséquence. Pourquoi est-ce que lui doit-il souffrir cette condamnation d'un Dieu saint et juste afin que des gens comme vous et moi qui méritions cette condamnation ne soient pas condamnés, mais au contraire soient accueillis, pardonnés. Et alors qu'il nous accueille, nous, dans cette relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous voyez ce qui commence à se produire. Nous commençons à devenir plus humbles et plus doux et plus patients, apprenant à nous supporter les uns les autres parce que nous commençons à imiter le Dieu qui nous a sauvés. Et Dieu commence à servir d'autres personnes pour nous aider à grandir en ce sens. Nous avons beaucoup de croissance à vivre. Vous devez grandir, je dois grandir. Mais prenez courage. Vous avez un Dieu gracieux qui est engagé à vous aider à grandir. Il vous a pardonné, il vous a accueilli dans cette relation avec lui. Et maintenant, il vous invite à faire la même chose dans vos relations. Je ne sais pas où vous en êtes spirituellement ce matin. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui s'identifie clairement avec la foi chrétienne. Vous appartenez à Jésus-Christ, vous vous identifiez avec Jésus-Christ. Que vous avez compris qu'il n'était pas seulement qu'un grand homme, mais qu'il est aussi le Rédempteur, le seul Sauveur qui pouvait nous sauver de nos péchés, pour nous transformer. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si ce matin vous êtes ici et vous êtes simplement intéressé à toute cette question du christianisme, à cette religion, et peut-être qu'à travers les années, vous êtes simplement confus dans votre démarche, dans vos recherches. Je ne sais pas. Mais je sais que je peux vous inviter à croire ceci. Ceci est intéressant. Et bien des gens dans cette salle trouvent leur réconfort dans ces vérités à tous les jours. Et je veux vous inviter ce matin, si vous n'avez pas trouvé votre espoir, votre réconfort dans cette relation, à entrer dans cette communion simplement en disant « Je suis un échec, j'ai péché, je suis un pécheur et j'ai besoin d'être sauvé, d'être pardonné, d'être transformé. » Est-ce que vous voudriez faire cela ce matin? Si vous êtes un croyant, vous êtes un chrétien, demandez à Dieu de travailler dans votre cœur et de vous aider à vivre Éphésiens 1 à 6, Éphésiens 4, 1 à 6. On va terminer dans la prière. Père, merci pour l'œuvre que tu fais dans cette Église de l'espoir. Merci pour des pasteurs comme Yannick et son frère Hugo et bien d'autres à Montréal et puis au Québec. Leur donnerais-tu la grâce, Seigneur, s'il te plaît? Aide-les à atteindre des gens pour Christ, pour Jésus. Que leur vie, leur style de vie, non seulement comme individu, mais comme famille et comme communauté, soit attirante et convaincante, afin que des gens désirent connaître cette vérité, connaître une vérité qui n'est pas seulement théorique, mais qui amène des vies transformées quotidiennement, concrètement. Je prie pour chacun d'entre nous ce matin, afin que tu nous encourages dans nos luttes, nos combats, que nous avons un Dieu qui est engagé à poursuivre, à persévérer jusqu'à la fin pour nous apprendre à, pour nous aimer, même dans nos luttes, dans nos combats. Et un Dieu, oui, qui veut nous transformer en effet et nous aider à grandir afin que nous soyons davantage comme Jésus lui-même. Je te remercie pour ces principes si simples et si profonds, ces promesses qui sont là, qui sont nôtres, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen.